Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle maladie rare, la neuropathie optique héréditaire de Leber. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Catherine Vignal-Clermont. Docteur Vignal-Clermont, bonjour.
Bonjour.
Docteur Vignal-Clermont, vous êtes ophtalmologiste, chef du service de neuro-ophtalmologie et urgence de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Vous avez également une activité d'intérêt général au sein de l'hôpital des 15-20 et vous êtes spécialiste en neuro-ophtalmologie. Alors, docteur Vignal-Clermont, pour débuter notre entretien, une question très simple. Qu'appelle-t-on neuropathie optique héréditaire de Leber ?
Eh bien, la neuropathie optique héréditaire de Leber, nous sommes bien dans le sujet, c'est une maladie rare dont la prévalence est estimée à entre 1 sur 30 000 et 1 sur 50 000 en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie. Et c'est néanmoins la plus fréquente des maladies mitochondriales. C'est une maladie qui a été décrite à la fin du 19e siècle, en 1871, par un ophtalmologiste allemand, Theodor Gustav von Leber, qui a rapporté quatre familles avec ce qu'il a appelé à l'époque une névrite optique rétrobulbaire. Et il a parfaitement bien décrit ce Leber, puisque il y avait un scotome central, il y avait des troubles de la vision des couleurs, il y avait une hyperémie des vaisseaux péripapillaires, une bilatéralisation en quelques semaines, et il disait que ça amenait rapidement à une amaurose avec une atrophie optique. Il indiquait déjà la prédominance masculine de cette neuropathie optique et des sujets collatéraux dans la lignée maternelle. En fait, c'est beaucoup plus tard, en 1988, qu'un Américain, Doug Wallace, a découvert que cette maladie était en rapport avec une mutation ponctuelle de l'ADN mitochondrial, qu'il a décrit cette mutation dans le gène ND4 de l'ADN mitochondrial en position 11778, et c'est cette mutation qui est la plus fréquente des mutations observées en Europe, puisque c'est 70% des patients. Les deux autres mutations fréquentes dites primaires étant des mutations dans d'autres gènes de l'ADN mitochondrial, dans le gène ND en position 3460 et dans le gène ND6 en position 14484, en sachant qu'il y a beaucoup d'autres mutations. Et donc, d'emblée, cette neuropathie optique héréditaire de Leber, elle est transmise par la mère, ce qui fait que tous les enfants d'une femme porteuse d'un défaut d'ADN mitochondrial seront à leur tour porteurs. Par contre, c'est une maladie qui a une pénétrance incomplète et qui varie en fonction de plusieurs facteurs, de la génétique, donc hétéroplasmie haplogroupée sexe, avec un risque qui est bien plus important pour les hommes que pour les femmes, environ 50% pour les hommes et 10% pour les femmes, et aussi de facteurs environnementaux, en particulier l'alcool et le tabac, qui sont des facteurs aggravants. Et il faut savoir que même si le Leber est une maladie qui est liée à une anomalie de l'ADN mitochondrial, plus récemment, des neuropathies optiques, on va dire Leber-like, ont été décrites chez des patients qui présentent des anomalies de l'ADN nucléaire. Ça reste cependant extrêmement rare.
Et quelle est la physiopathologie de cette maladie rare ?
Eh bien, en fait, les variants pathogènes de l'ADN mitochondrial vont perturber le fonctionnement, en fait, d'une sous-unité du complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale. Ce complexe 1, c'est la NADH déshydrogénase. Et en fait, cette chaîne respiratoire mitochondriale, c'est finalement le moteur, c'est ce qui donne de l'énergie aux cellules. Et donc, ça perturbe cette ADN déshydrogénase en perturbant le transport des protons et des électrons à l'intérieur de cette chaîne. Et de facto, il va en résulter au final une baisse de production d'ATP, donc d'énergie, mais sans différence entre les porteurs sains et les sujets qui sont atteints, en fait, et qui sont donc malades par la neuropathie optique héréditaire de Leber. Plus récemment, il y a eu des dosages de plusieurs centaines de métabolites plasmatiques, ce qu'on appelle les études métabolomiques, qui ont mis en évidence qu'il y avait probablement une signature dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, avec en particulier une diminution des taux de taurine et de vitamine B3. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi finalement ces cellules ganglionnaires rétiniennes sont si vulnérables finalement à cette baisse de production d'ATP ? Eh bien, c'est probablement à cause de leurs particularités anatomiques et biochimiques. C'est les axones donc de ces cellules ganglionnaires rétiniennes ne sont en effet pas myélinisés au niveau de la rétine et jusqu'au passage de la lame criblée où ils vont s'entourer d'une gaine de myéline. Et le faisceau qui donne l'acuité visuelle centrale, le faisceau interpapillomaculaire, il est très compact et le diamètre des axones à ce moment-là sont faibles. Et ce sont les plus faibles des axones des cellules ganglionnaires rétiniennes. De facto, comme il n'y a pas de gaine de myéline, la demande énergétique de ces cellules ganglionnaires de ce faisceau est importante, en fait, est plus importante que celle des autres cellules neurales. Et ce besoin énergétique en fait, étant plus important dans la portion prélaminaire du nerf optique par la portion rétrobulbaire, avec des petits calibres des axones qui limitent leur contenu en mitochondries. Et donc, ces cellules sont défavorisées sur le plan énergétique par rapport aux autres cellules ganglionnaires beaucoup plus périphériques. Et donc, elles sont vulnérables à cette baisse de la production d'ATP.
Et d'un point de vue clinique, cette fois, quel est le tableau rencontré chez les patients qui sont touchés par une neuropathie optique héréditaire de Leber ?
Alors, c'est un tableau qui est finalement très bruyant. Hein. Le tableau clinique initial, c'est celui d'une baisse visuelle isolée, hein, avec une atteinte de la vision centrale, une préservation de la vision périphérique, et une baisse visuelle qui va être très rapidement progressive, qui va être indolore, qui va donc volontiers survenir chez un homme et chez un homme jeune, mais on sait que les femmes peuvent également être atteintes. Et dans deux tiers des cas, la baisse visuelle va être d'abord unilatérale et l'atteinte du deuxième œil va survenir dans un délai moyen de 6 à 8 semaines, mais en règle générale, en moins d'un an. Et chez le troisième quart des patients, si je puis dire, eh bien, on peut avoir une atteinte qui est bilatérale et simultanée. Alors, cette baisse visuelle, elle s'associe à une anomalie de la vision des couleurs. Donc, au départ, souvent dans l'axe rouge-vert, à la fin, souvent, les gens voient très, très mal les couleurs. Et il y a une altération également de la vision des contrastes. Donc, ce qui est évocateur, c'est finalement cette baisse d'acuité visuelle de la vision centrale chez un adulte jeune la plupart du temps, souvent chez un homme. Elle est indolore. Et en plus, au niveau du fond d'œil, dans 60-70% des cas, on va retrouver un aspect très particulier avec des papilles, donc des émergences de nerfs optiques qui sont très rouges, qui sont hyper émiées, qui sont saillantes, avec une dilatation des capillaires pré- et péripapillaires qu'on appelle des télangiectasies péripapillaires. Et les vaisseaux également sont tortueux et ça, c'est assez inhabituel chez les sujets jeunes. Donc, ces papilles qui sont très rosées, en fait, vont devenir avec le temps un peu plus pâles et on a ce contraste entre la pâleur qui va finir par s'installer en temporal au départ et puis ces papilles qui sont très rouges. Donc, la vision, elle se dégrade et elle va atteindre un point extrêmement bas. Souvent, les patients sont légalement aveugles, ils ont des acuités visuelles inférieures à 1/50. Et ce point le plus bas qu'on appelle le nadir est atteint en 1 à 6 mois. Et ensuite, les papilles, en fait, vont devenir extrêmement blanches et on va atteindre un stade qui est un stade chronique et la majorité des patients sont légalement aveugles. Donc, les signes d'alerte, c'est bien ça, c'est cette baisse de vision, indolore, isolée, chez quelqu'un qui, finalement, n'a pas de problème de santé au préalable. On va voir après qu'il peut y avoir des antécédents, qui doit faire évoquer, finalement, la maladie et rechercher, en fait, des antécédents familiaux et faire un bilan.
Et donc justement, chez ces patients, quel bilan initial réaliser ?
Alors, la première chose à faire, bien sûr, quand on suspecte une maladie héréditaire, c'est de faire un interrogatoire pour rechercher finalement des antécédents familiaux, et en particulier dans la famille maternelle, en sachant que ces antécédents, on les retrouve souvent que dans un cas sur deux. On va également à l'interrogatoire rechercher des facteurs déclenchants et on a dit tout à l'heure que la consommation importante de tabac et d'alcool était finalement potentiellement un facteur déclenchant. Et puis ce bilan initial, c'est un examen ophtalmologique, donc avec une mesure de l'acuité visuelle, avec une recherche de déficit pupillaire afférent relatif, donc surtout quand l'atteinte est asymétrique ou unilatérale, en sachant qu'une deuxième particularité de cette maladie, bien que ce soit une neuropathie optique, c'est que ce réflexe pupillaire, il peut être normal. On va faire un champ visuel qui va montrer ce que j'ai décrit, c'est-à-dire une atteinte de la vision centrale, un scotome séco-central large, avec une préservation du champ visuel périphérique. Et puis, on va faire un examen, une tomographie en cohérence optique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un OCT. Et cet OCT, il va retrouver en fait l'augmentation de l'épaisseur en fait de la couche des fibres nerveuses péripapillaires. Donc, il y a une vraie saillie papillaire qui démarre en temporal en inférieur, qui ensuite va s'étendre. Et puis, on va mesurer également par OCT les cellules ganglionnaires au niveau maculaire. Et un des éléments supplémentaires, je dirais, évocateurs, c'est que cet amincissement, il démarre précocement, avant même souvent la baisse visuelle et avant que l'atteinte du faisceau interpapillomaculaire soit visible au niveau péripapillaire. Comme c'est un sujet jeune qui a une baisse d'acuité visuelle, on va vouloir éliminer en fait d'autres diagnostics comme les névrites optiques par exemple ou une compression. Donc on fait très souvent une IRM cérébrale, il faut faire une IRM cérébrale et des voies visuelles qui va mettre en évidence la neuropathie optique avec l'hypersignal, T2 et flair des nerfs optiques et du chiasma, mais ce n'est pas une névrite optique, il n'y a pas d'inflammation, donc il n'y a pas de rehaussement par le gadolinium. Le bilan doit également comporter en fait un électrocardiogramme chez tous les patients Leber, parce qu'il peut exister des troubles du rythme cardiaque, et ces troubles du rythme cardiaque doivent être dépistés. Donc, effectivement, on fera systématiquement un électrocardiogramme. Et puis, bien entendu, on suspecte une maladie héréditaire. On va donc rechercher la mutation de l'ADN mitochondrial. Et donc, on va demander donc une étude de l'ADN mitochondrial, soit les trois mutations primaires, soit l'ensemble de l'ADN mitochondrial. Ça dépend un peu des habitudes et des équipes. Et le diagnostic, bien sûr, est affirmé par la mise en évidence de la mutation au niveau de l'ADN mitochondrial. Donc le bilan, finalement, initial, c'est celui-là, c'est de faire le diagnostic, de l'affirmer, de le suspecter, de l'affirmer et de mettre en évidence, en fait, la mutation de l'ADN mitochondrial en ayant éliminé tous les autres diagnostics différentiels, en particulier par la réalisation d'une IRM cérébrale et des voies visuelles.
Et pour conclure notre entretien, Dr Vignal Clermont, à qui adresser les patients en cas de suspicion de neuropathie optique de Leber ?
Eh bien, moi, ce que je conseille, en fait, c'est d'adresser des patients dans un centre spécialisé, le plus souvent un centre hospitalier. Parce que faut quand même bien voir que cette maladie, c'est une maladie où la majorité des patients va être légalement aveugle. C'est une maladie héréditaire, donc c'est un véritable traumatisme, c'est un véritable traumatisme familial. Et donc, les centres spécialisés, ils vont, en fait, pouvoir organiser, finalement, le bilan de départ, la recherche génétique, le rendu du résultat génétique avec une explication par un généticien ou par une conseillère en génétique. Et ensuite, ils vont expliquer les modalités thérapeutiques, les possibilités thérapeutiques. Ils vont expliquer la nécessité d'une prise en charge en basse vision avec des possibilités de réadaptation, des possibilités d'aide visuelle et également donner des contacts, et en particulier les contacts des associations de patients, qui sont des associations de patients qui prennent en charge ces patients avec des neuropathies optiques génétiques et qui ont, par exemple, des groupes de parole. Et il faudra aussi proposer un suivi psychologique. Le patient doit être suivi, doit être accompagné jusqu'à ce qu'il ait une situation stable. Et donc, il ne faut pas laisser tomber ces patients-là. Et je pense que les centres spécialisés sont quand même plus adaptés, en fait, à ceci. Mais on peut tout à fait faire des suivis avec l'ophtalmologiste traitant, justement, pour assurer un suivi de proximité.
Eh bien, merci mille fois, Dr Vignal Clermont, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.